Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Jacques pour le magazine de CFM Radio. Aujourd'hui, un nouvel épisode de nos explorations. Je vous emmène à Albi, dans l'un des musées les plus emblématiques du Tarn, et qui plus est, qui se trouve installé dans un décor à couper le souffle. Nous sommes au palais de la Berbie, cette forteresse médiévale devenue un palais d'agrément, classé monument historique et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que se déploie la plus grande collection publique au monde consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec, un artiste majeur de la modernité. Et l'idée de ce rendez-vous, c'est de vous donner des clés pour mieux comprendre ce musée, son histoire, ses œuvres aussi, et surtout vous donner envie d'y entrer, que vous soyez un habitué des musées ou un simple curieux. Pour nous guider dans le lieu et nous introduire à ce qu'on peut y voir et faire, Laura, qui est responsable du service des publics, sera avec nous dans un instant. Et dans l'immédiat, c'est la directrice et conservatrice du musée Toulouse-Lautrec qui nous accueille. Bonjour Fanny Girard.
Bonjour, merci de l'invitation.
Merci beaucoup à vous de nous accueillir. Nous sommes ici, c'est la salle Choiseul, c'est ça?
Oui, salle Choiseul et accueil du musée.
Ouais, voilà, on est installé ici pour en apprendre plus sur ce lieu. On va commencer peut-être par parler de ce palais de la Berbie, qui est assez impressionnant quand même, quand on arrive là dans ces murs.
Oui, c'est un des monuments vraiment marquants d'Albi, qui est vraiment en plein centre-ville, juste à côté de la cathédrale. Et c'est un ancien palais des évêques et des archevêques d'Albi. C'est un palais qui a été créé au XIIIe siècle et qui a connu divers usages au cours de son histoire, donc qui a accueilli les évêques et archevêques d'Albi. Puis, à partir du début du XXe siècle, le musée d'Albi devenu musée Toulouse-Lautrec, et c'est ainsi qu'on est arrivé dans ces murs et qu'on occupe toujours aujourd'hui.
Un palais qui fait partie intégrante de l'expérience de visite du musée.
Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on arrive avec ce palais-forteresse, qu'on arrive dans le musée. Et puis tout au long du parcours, vous avez certaines salles, bien sûr, qui sont très marquantes d'un point de vue architectural, avec des décors qui datent directement du XIIIe siècle, notamment des pavements décorés de terre cuite vernissée, jusqu'à des plafonds peints au XVe, XVIe, XVIIe, des voûtes médiévales. Et donc on parcourt le temps, on traverse les siècles et les âges avec cette visite du palais et du musée.
Je sais que des choses ont changé ces dernières années ici dans le musée Toulouse-Lautrec, mais je me souviens il y a quelques années quand j'avais fait la visite, on voyait même une chambre d'évêque de l'époque, on voyait aussi comment s'est construite la cathédrale d'Albi, donc on en apprend beaucoup plus aussi sur ce quartier, sur ce bout de quartier de la ville d'Albi quand on fait une visite ici du musée Toulouse-Lautrec.
Oui, tout à fait, la particularité c'est qu'on visite un musée, une collection, mais on visite aussi un monument, et dans certaines salles du musée, certaines salles sont vraiment dédiées au palais, et on va retracer l'histoire, on va voir des portraits des archevêques, notamment avec une vidéo aussi qui raconte les phases de construction du palais. Et cette exploration de l'architecture, c'est quelque chose également dans les années à venir qu'on va vouloir développer pour essayer de raconter aussi un peu des anecdotes, raconter l'usage des salles au fur et à mesure du temps et en savoir un peu plus sur ce monument exceptionnel qu'est le palais de la Berbie.
Parlons maintenant d'Henri de Toulouse-Lautrec, à qui est consacré donc ce musée, même si le musée n'abrite pas que des œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec, mais déjà on va en résumer, dire qui était Henri de Toulouse-Lautrec.
Alors Henri de Toulouse-Lautrec, c'est un des artistes les plus novateurs d'avant-garde de la fin du 19e siècle. Alors il a principalement créé à Paris, à Montmartre, mais il faut savoir qu'il est né à Albi, et donc c'est ainsi qu'on se retrouve ici avec cette collection absolument exceptionnelle, qui est la plus grande collection publique d'œuvres de Toulouse-Lautrec. À la mort de l'artiste en 1901, ses parents, sa famille souhaitent donner les œuvres à des musées. Et après avoir demandé notamment aux musées parisiens qui ont refusé la donation des peintures et des dessins, ils se sont tournés donc vers la ville natale, vers Albi, pour ce don. Et Henri de Toulouse-Lautrec, donc il vient d'une famille aristocrate du sud-ouest. Il commence à dessiner et à peindre dès son plus jeune âge, et puis à la suite d'accidents coup sur coup, il va se casser les fémurs des deux jambes, va être alité pendant très longtemps, développer donc pour s'occuper sa pratique de dessinateur et de peintre jusqu'à en faire vraiment une vocation et puis parvenir à convaincre ses parents de se lancer dans cette carrière de peintre, être formé dans des ateliers d'artistes à Montmartre et puis jusqu'à donc s'installer vraiment à Montmartre, ouvrir son atelier et puis devenir peintre, lithographe, dessinateur, vraiment un artiste multiple.
Affichiste aussi, et d'ailleurs vous en consacrez une partie des expositions pour montrer le travail d'affichiste qu'il a pu réaliser. Il y a quelques années, il y avait eu un temps fort ici au musée sur ce travail d'affiche. Et parler donc de Toulouse-Lautrec, c'est de parler comme ça d'un artiste multiple. Dans les collections que vous avez ici, ça se chiffre à combien d'œuvres, par exemple, ce que vous conservez d'Henri de Toulouse-Lautrec ?
Alors, de Toulouse-Lautrec, on a plus de 200 peintures, près de 600 dessins, près de 200 lithographies, le fond complet des 31 affiches de Toulouse-Lautrec. Donc vraiment un fond extrêmement important qui a en plus la particularité et pour nous la grande richesse de pouvoir retracer toute la carrière de l'artiste, c'est-à-dire qu'on va vraiment de ses premiers dessins réalisés à 9-10 ans, ses premières peintures à l'huile vers 14 ans, jusqu'à la dernière peinture qu'il peint peu de temps avant sa mort en 1901. Et dans cette production très dense et multiple, notre collection du musée Toulouse-Lautrec va permettre vraiment d'aborder toutes les thématiques et tous ces sujets qui l'ont passionné au cours de sa carrière. Donc on va aller dans les cafés-concerts et les cabarets, vers les maisons closes, vers le théâtre, vers le dessin de presse. Donc ça va permettre vraiment d'avoir un grand panorama de sa production grâce à notre collection.
Est-ce qu'il y a des facettes moins connues d'Henri de Toulouse-Lautrec que l'on découvre quand on vient ici dans ce musée d'Albi ?
Une des particularités de ce musée, c'est que grâce à la donation de sa famille, on a notamment un très gros ensemble d'œuvres de jeunesse et d'œuvres de formation. Et ça permet vraiment aussi de voir un artiste en devenir, comment l'artiste Toulouse-Lautrec qu'on connaît se construit, quelles sont ses influences au début, puisque quand l'artiste se forme au départ, il regarde évidemment ce qui se passe autour de lui et il va travailler en inspiration de certains peintres, inspiration du naturalisme, etc., jusqu'à vraiment trouver sa voie et trouver notamment une manière de travailler avec ses œuvres sur carton, avec le fond en carton bien visible, qui vraiment fait sa spécificité. Mais grâce à cette collection et notamment à ce fond plutôt de jeunesse, on voit tout ce chemin parcouru et on voit d'où part l'artiste et où il arrive ensuite, comment il crée ce caractère novateur.
Fanny Girard, directrice et conservatrice du musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Selon vous, qu'est-ce qui rend le travail de Toulouse-Lautrec encore actuel pour les visiteurs d'aujourd'hui ?
Alors je pense que c'est vraiment ce regard qu'il a supporté sur son époque, une époque qui est particulièrement intéressante pour nous. Le Paris, le Montmartre de la fin du 19e siècle, c'est vraiment une époque où se met en place un certain nombre de choses, où se développe la culture du divertissement, vraiment cette recherche aussi de loisirs, de divertissement pour la population. On observe aussi une époque qui est extrêmement intéressante d'un point de vue d'avancée sociale, politique, etc. Et Lautrec, dans son caractère d'observateur aussi de cette vie parisienne, il va retranscrire cela dans ses œuvres. Également, c'est un artiste qui porte un regard très particulier sur ses contemporains autour de lui. Il va s'appliquer à présenter des proches, mais aussi des personnalités plus marginales de la population, notamment des portraits très sensibles de prostituées, sans jamais un regard jugeur, on va dire, vraiment condescendant. Mm-hmm. Il va s'appliquer à saisir la personnalité et les traits de caractère de chacun sans porter de jugement directement sur la personne. Et on va aboutir à des œuvres très sensibles, à des portraits vraiment très fins de ces personnalités qui dénotent d'un regard vraiment porté sur les personnes directement.
C'est un peu une lutte des classes, hein, qui l'a mené en rendant célèbre certaines danseuses, notamment des cabarets parisiens, je pense à la Goulue, que vous exposez aussi ici. Et si, selon vous, Fanny Girard, il fallait comme ça pointer quelques œuvres incontournables, voire des pépites que vous abritez ici au musée, en d'autres termes, vos coups de cœur?
Alors ici, en effet, je vous ai dit, on a une collection très vague, donc on a un bon grand nombre de chefs-d'œuvre de l'artiste, mais peut-être parmi les œuvres les plus importantes de notre collection, on a ce très grand tableau au salon de la rue des Moulins, qui est un tableau de grand format, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est un tableau qui met en scène des prostituées dans un salon de maison close, et Toulouse-Lautrec, il va utiliser ce grand format qui généralement est destiné à la peinture d'histoire, à des sujets très nobles, etc., pour représenter ces intérieurs de maison close. Et ça dénote de ce regard qu'il porte sur intime, qu'il porte sur, sur les personnes autour de lui et ses marges de la société, puisque dans ce grand format, il va dresser plusieurs portraits de prostituées qui sont en train d'attendre dans un salon et qui attendent non pas le client, mais qui attendent la visite médicale qui fait partie du quotidien de ces maisons closes. Et il va se pencher donc vraiment sur cette vie intime. Parmi les œuvres aussi très importantes, il y a un certain nombre de portraits que fait Toulouse-Lautrec. Souvent, Toulouse-Lautrec, on le rattache vraiment à cet univers cabaret, café-concert, maison-close, etc. Il faut savoir que c'est un très grand portraitiste également, et qu'il a su vraiment tracer des portraits intimes, psychologiques de ses modèles, et notamment de très beaux portraits de sa mère, également de son cousin Gabriel Tapier de Céléran, qu'il met en scène dans les couloirs de la Comédie Française sur un sol d'un rouge très très vif qui donne une grande modernité à l'œuvre, et ça fait partie également d'une de nos portraits de grand format assez exceptionnels de notre collection.
Entre la ville d'Albi et la ville de Gérone en Espagne, à Toulouse-Lautrec, vous adjoignez là jusqu'au 8 mars un autre grand peintre quasiment contemporain de nous, hein, dans le sens où il a été aussi très important, un artiste majeur de la culture catalane. C'est Miró qui s'expose ici à Albi. Qu'est-ce qu'on dit déjà de Miró pour l'introduire et le présenter aux auditeurs?
Oui, on a la chance dans ce cadre du jumelage Albi-Gérone de pouvoir présenter 13 œuvres de Miró, donc 3 dessins et 10 lithographies. Donc dans un pré-croisé, en fait, vous avez en parallèle 6 tableaux de Toulouse-Lautrec présentés au musée d'histoire de Gérone, et ça nous a semblé très intéressant justement de pouvoir présenter Miró, un artiste que nous n'avons pas dans nos collections, faire découvrir à nos visiteurs cet artiste vraiment singulier qu'est Miró, donc un artiste catalan qui a su créer son propre univers vraiment pictural, son propre langage même, puisque petit à petit au cours de sa carrière il va vraiment développer un univers onirique, imaginaire, avec des figures, notamment des symboles qui se retrouvent d'œuvre en œuvre, qui vont avoir une symbolique particulière et qui on retrouve bien sûr dans les œuvres présentées au musée Toulouse-Lautrec.
Et pour ça, vous avez choisi de mélanger les deux en quelque sorte. Il n'y a pas une salle qui est dédiée à Miro. Voilà, vous avez choisi de mettre Miro au milieu de Toulouse-Lautrec. Pourquoi ce choix-là ?
Alors en fait, on a consacré une de notre salle, en effet, de notre parcours permanent à Miro. Ça nous a semblé très intéressant de le placer aussi au cœur de nos collections du deuxième étage, qui sont des collections d'art moderne fin 19e, début du 20e siècle. Alors c'est une collection qui s'est créée à la suite de la donation des œuvres de Toulouse-Lautrec et donc qui se concentre sur les contemporains de Lautrec et sur ses suiveurs pour montrer, pour replacer en fait l'artiste dans le contexte de la production de son temps et de la production qui suit ensuite. Donc placer Miro au sein de ces artistes, ça nous permet déjà de faire dialoguer des grandes artistes de ce temps ensemble, et puis également pour nous de mettre en avant cette collection de la première moitié du XXe siècle, qui est une collection d'une très grande valeur également, avec des œuvres de Gauguin, Matisse, Dufy, Van Dongen, etc. Et qui est une collection qu'on a toujours à cœur de mettre en avant également. On est évidemment très connu pour notre collection Toulouse-Lautrec, mais on conserve également des chefs-d'œuvre d'autres artistes.
Quand on vient au musée, on pénètre ce beau bâtiment, on peut visiter et apprécier ces différentes expositions, ces différentes collections. On parle un peu de l'extérieur aussi, parce qu'il est magnifique. C'est magnifique l'extérieur, là, quand on vient, jardin à la française, c'est un petit bout de Versailles comme ça dans Albi.
Oui, en fait, c'est ce site du palais de la Berbie, c'est vraiment un site à part. En effet, on y pénètre par ce grand portail qui mène de la place Sainte-Cécile par un grand escalier jusqu'au palais, qu'on peut aussi contourner pour arriver au jardin du palais, puisque c'est la particularité du monument. Le palais de la Berbie, c'est évidemment ce palais forteresse, mais c'est tout un site qui se développe avec des jardins à la française en contrebas et tout un chemin de ronde que l'on peut parcourir pour apprécier des vues différentes sur le monument, mais aussi sur le Tarn, puisque ce chemin de ronde longe également le Tarn et permet une très belle vue sur la rive en face.
Lever et coucher du soleil magnifique, hein, à partir de ce point de vue-là, un chemin de ronde qui est en travaux. Là maintenant, des travaux qui vont poursuivre l'embellissement aussi de ce lieu. Alors à l'année, c'est à peu près 140 000 visiteurs que vous accueillez ici. On parle d'accessibilité, déjà pour les personnes à mobilité réduite, il y a tout ce qu'il faut.
Oui, tout à fait. Il y a eu des grands travaux entre 2001 et 2012 qui a rendu le monument totalement accessible. Donc évidemment, par ascenseur, tous les demi-niveaux et niveaux sont accessibles totalement. Et on parlait du site du palais de la Berbie, ont également été mises en place des voies qui permettent de rendre le site accessible et notamment de pouvoir aller voir sur une de nos terrasses cette très belle vue que j'évoquais.
La gageure pour vous et vos équipes, hein, c'est de rendre ce musée encore plus accessible à tous les âges. Nous sommes là à côté d'une charte et je crois que vous faites partie des premiers musées en Occitanie à être détenteur, on va dire, de ce label, là, le label Mom Art, les 10 droits du petit visiteur. Là, on s'adresse plus particulièrement aux enfants à qui on ouvre grand les portes des musées.
Oui, tout à fait. On a voulu mettre ce public, ce jeune public, enfants, familles, en faire vraiment une priorité pour nous ici au musée. Donc à travers toute une programmation spécialement dédiée pour eux, mais Laura pourra vous en parler ensuite. Et depuis l'année dernière, on a adhéré à cette charte Momart. C'est une charte en effet qui invite les jeunes visiteurs, donc les enfants, à s'approprier le musée. Et dans cette charte, en fait, la particularité, c'est que cela présente les droits de ces jeunes visiteurs et les droits des enfants. On parle souvent dans les musées, voilà, par la signalétique, voilà, on n'a pas le droit de courir, on n'a pas le droit de manger dans les salles, etc. On n'a pas le droit de parler, de crier trop fort, etc. Et là, l'idée, c'est de mettre en avant justement ce qu'on a le droit de faire. Voilà, on a le droit de visiter à son rythme et de ne pas être au pas de course. On a le droit de s'asseoir, on a le droit de poser des questions, on a le droit de partager les impressions devant les œuvres, on a le droit de se concentrer sur des détails et de ne pas tout regarder. Et pour nous, c'était important justement de montrer par cette charte et par cette adhésion que les jeunes visiteurs et les enfants sont les bienvenus au musée. On leur ouvre les portes vraiment en grand et on espère les voir de plus en plus nombreux dans nos salles.
Alors, je ne sais pas si vous avez tout de tête, mais niveau tarif, ça donne quoi pour le jeune public et le grand public, l'accessibilité à ce musée?
Alors, jusqu'à 18 ans, l'accès au musée est gratuit pour tous les enfants. Et puis, ensuite, le tarif plein ici est de 10 euros et le tarif réduit de 5 euros avec un certain nombre de tarifs réduits, notamment
des profils,
pour les étudiants, et donc qui permet d'ouvrir assez largement le musée. Donc on parlait justement de ce jeune public, de ces enfants, ils peuvent venir dans nos salles évidemment gratuitement, de plus on met en place des choses pour eux également en termes de visites libres avec des livres et jeux pour les inviter à s'amuser aussi au cours de leur visite, et puis dans nos expositions temporaires, des parcours de textes qui sont spécialement dédiés pour eux, qui sont spécialement écrits pour eux et qui leur permet aussi d'avoir des informations sur l'exposition.
On invite les auditeurs à faire un tour sur le site internet du musée Toulouse-Lautrec d'Albi pour voir tout ce qui se passe aussi ici au musée, au-delà des expositions, au-delà des collections que vous détenez ici. On vient de poser les bases, un palais exceptionnel, une collection unique au monde et un dialogue inattendu entre Toulouse-Lautrec et Joan Miró. Ça, c'est jusqu'au 8 mars. Mais un musée, ce n'est pas seulement des œuvres qui sont accrochées au mur, c'est aussi une manière de les raconter, de les partager et de les rendre accessibles à toutes et à tous. Et juste après la musique, on parlera justement de ces passerelles entre le musée et ses visiteurs avec celles et ceux qui imaginent les rencontres, les visites, les actions pour tous les publics, jusqu'au yoga même. Merci beaucoup Fanny, en tout cas de nous avoir ouvert comme ça en grand les portes de ce musée Toulouse-Lautrec d'Albi.
Merci à vous.
Beaucoup. On retrouve Laura dans quelques minutes sur CFM Radio. Laura qui est responsable du service des publics ici au musée Toulouse-Lautrec. À l'écoute d'Exploration sur CFM Radio. Nous sommes au cœur du musée Toulouse-Lautrec d'Albi, installé dans le majestueux palais de la Berbie. Alors, après avoir exploré l'histoire du lieu, les grandes lignes de la collection avec sa directrice, Fanny Girard, qui était avec nous il y a quelques minutes, là, on va maintenant s'intéresser à celles et ceux pour qui le musée est pensé au quotidien, les publics. Comment rendre l'art accessible à tous, éveiller la curiosité dès le plus jeune âge et donner envie de pousser la porte, même quand on n'est pas un habitué des musées. On en parle avec Laura Garbach, qui est responsable du service des publics. Bonjour Laura.
Bonjour, bienvenue au musée.
Merci beaucoup. Un musée, on peut même faire du yoga. Oui. J'ai vu ça.
On peut faire toutes sortes de choses au musée. Et c'est bien parce qu'on aime bien aller là où on ne nous attend pas.
Ouais. Et on le voit de plus en plus là, dans les propositions ici au musée, c'est de vraiment aussi un peu démocratiser l'image qu'on se fait d'un musée, parce que pour certains, c'est un peu impressionnant encore de rentrer dans un musée.
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs freins en réalité. Souvent, on vient au musée pour la première fois avec l'école. Donc, on ne choisit pas vraiment de venir au musée à cet âge-là, puisque c'est souvent l'enseignant qui génère la venue au musée. Mais c'est vrai que c'est une bonne première entrée pour découvrir le musée quand on est enfant. Et souvent, quand on discute avec les Albigeois, ils nous disent tous « Je suis venue quand j'étais à l'école primaire, j'ai adoré ». Mais quand on grandit, le musée parfois sort un peu des habitudes, hein, pour plusieurs raisons. Ça peut être... parfois le côté financier qui peut être un frein, mais aussi le fait que souvent c'est des freins qu'on se met nous-mêmes, hein. On se dit le musée, oulala, je suis pas un spécialiste d'histoire de l'art, je ne sais pas qu'est-ce que je vais y voir, j'ai peur de pas comprendre. Et notre métier, nous au service des publics, c'est justement de mettre en place tout un tas d'outils, que ce soit des outils pour aider à comprendre ce qu'on voit, mais aussi toute une programmation culturelle, hein, où on va proposer aux gens de venir vivre des expériences en fait au musée, accompagné avec un médiateur ou un guide de conférencier, et qui soit adapté à tous les âges, à toutes les nationalités aussi, puisque ici on a la chance d'avoir environ 27% de visiteurs étrangers, notamment l'été. Donc dans nos missions, on a cette accessibilité et rendre accessible à tous et au plus grand nombre nos collections, puisque nos collections sont publiques, donc elles appartiennent à l'État. En l'occurrence, à l'État, on pourrait dire, ici, elles appartiennent au musée, aux Albigeois, à tout le monde, à la ville. Mmh. Et c'est essentiel de rendre visibles ces collections, puisqu'elles appartiennent finalement à tous.
Est-ce que vous avez des exemples d'activités ou de dispositifs que vous avez proposés là, récemment autour des expositions pour illustrer un peu ce qu'on vient d'exprimer là ?
Oui, alors par exemple, je vais prendre l'exemple de l'exposition temporaire qu'on a eue l'été dernier sur les affiches de Toulouse-Lautrec. Notre métier, c'est ce qu'on appelle la médiation, donc c'est mettre en lien une œuvre et un public. Ça peut être, par exemple, dans cette exposition, on avait conçu tout un cabinet avec des manipulations. Donc il y avait un système de tampons de différentes couleurs qui permettait aux enfants, mais également aux adultes, d'imprimer couleur par couleur une affiche de Toulouse-Lautrec. Et à travers ce dispositif qui était plutôt ludique, qui ressemblait à un jeu, l'idée c'était d'expliquer quelque chose de beaucoup plus complexe, le processus d'impression de la lithographie, donc qui se faisait aussi couleur par couleur, mais avec quelque chose qui soit finalement accessible à tous, puisque on avait des enfants de 6 ans comme des adultes bien plus âgés qui s'essayaient à cette impression et qui repartaient avec leurs petits souvenirs. Donc ça va être à la fois de concevoir des outils, mais aussi concevoir des visites qui soient adaptées. Je pense aux scolaires, on reçoit un peu moins de 7000 scolaires par an, ce qui est beaucoup. On leur propose principalement, notamment sur les publics maternels et primaires, de découvrir le musée à travers un format spécifique qu'on appelle nous une visite atelier, qui dure 2 heures. Et sur ce temps-là, il y a 30 à 45 minutes de découverte adaptée à l'âge des enfants d'une sélection d'œuvres de Toulouse-Lautrec, parce que bien évidemment, avec des enfants de 6 ans, par exemple, on ne peut pas faire 2 heures de visite guidée. Donc les mots sont choisis, les mots sont adaptés, la sélection d'œuvres aussi. Et dans la deuxième partie de cette visite atelier, les enfants sont accueillis dans notre salle d'atelier pédagogique, dans lequel on leur propose de faire une pratique artistique. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, ça peut être toutes sortes de pratiques d'art plastique, mais aussi d'expression corporelle, en lien bien sûr toujours avec les œuvres qu'ils ont vues et ce qu'ils ont pu observer de l'œuvre de Toulouse-Lautrec.
Alors des visites, on va dire, adaptées, des ateliers de pratique, mais du dialogue aussi entre les arts. On voit de plus en plus une collusion entre le spectacle vivant, la musique, le cinéma même, avec aussi ce qui s'affiche ici ou qui est exposé sur les murs du musée.
Bien sûr. Alors déjà, à Albi, on a la chance d'avoir une riche scène culturelle, donc c'est quelque chose qu'on essaie aussi nous de favoriser dans des partenariats croisés avec d'autres acteurs culturels de la ville, mais également on profite des temps forts événementiels que sont notamment la Nuit des Musées et les Journées du Patrimoine. Alors peut-être que tout le monde ne les connaît pas encore. La Nuit des Musées, c'est une soirée, alors cette année ce sera le samedi 23 mai, durant laquelle les musées en France sont généralement gratuits pendant la nuit, donc après leur horaire d'ouverture habituel. culturelle, nous, c'est de 18h à 23h, et où on accueille les visiteurs donc, à découvrir le musée déjà dans une ambiance particulière, puisque c'est le soir. Donc il y a quand même cet effet vraiment privilégié de voir ce lieu qui est habituellement fermé. Et bien souvent, ces temps forts sont l'occasion pour nous d'inviter parfois une invitation à croiser les arts. Par exemple, on peut avoir de la danse dans les salles, de la musique jouée en live. Et l'idée, c'est aussi de faire vivre autrement ce musée à travers une expérience sensible, peut-être, de ressentir des choses dans ce lieu qui est assez particulier, mais aussi face aux œuvres, à travers l'association d'autres arts. Et pas seulement les arts visuels et les tableaux qu'on a dans le musée.
Et même avec du yoga, notamment là le 1er février, un dimanche, on peut venir ici au musée Toulouse-Lautrec et bénéficier à partir de 10h d'une séance de yoga d'un peu plus d'une heure. Et l'idée, c'est d'attirer les gens aussi différemment.
Il y a plusieurs points. Il y a le fait déjà que souvent quand on pense à visiter un musée, on se dit que ça va être une visite guidée. Mais on peut, il y a toutes différentes manières d'aborder un musée et ses collections. Le yoga, pour nous, c'est aussi proposer, comme je le disais, quelque chose de l'ordre de l'expérience, d'une expérience sensible, puisqu'on va se confronter aux œuvres, non pas via des explications qu'on va recevoir, même s'il y a toujours du lien, même dans la pratique de yoga qui est faite avec ce qui nous entoure dans la salle. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer, et notamment au public local, d'avoir différents moments de l'année où on va fréquenter le musée. Parce que souvent, on a fait la visite il y a quelques années et on se dit, bon, c'est bon, le musée, je le connais. Là, en fait, on propose une expérience où pendant une heure et quart, il y a une professeure de yoga qui va nous mener à travers une pratique sportive, puisque ça reste du yoga, même si c'est très doux. Mmh. Mais on va passer un temps long dans un monde où les choses vont toujours très vite. On propose, en fait, finalement, une petite bulle pendant une heure et quart pour se concentrer sur soi, aborder peut-être le lieu qui nous entoure, les œuvres, non pas par quelque chose de très rationnel, mais par le corps, et finalement bénéficier d'un moment un peu de sérénité dans les salles. Et de plus en plus, dans le monde des musées, on fait le lien aussi entre la fréquentation d'un musée et les bénéfices que ça peut apporter pour la santé et la santé mentale, notamment. Il y a d'ailleurs dans certains pays des expériences de musées sur ordonnance qui ont été essayer, notamment je pense au Canada, où il y a des médecins qui peuvent prescrire en fait une visite au musée à certains patients, parce que au-delà bien sûr d'apprendre des choses, de la connaissance, d'enrichir, de travailler sur la curiosité intellectuelle, on peut finalement trouver d'autres choses aussi au musée.
Dans l'agenda des propositions ici au musée, il y a beaucoup de choses, comme on peut le voir là en feuilletant votre petit livret, ou si on se rend sur le site internet du musée Toulouse-Lautrec, on a parlé du yoga, mais il y a eu du urban sketching, donc ça c'est pour des dessinateurs, des peintres, aquarellistes qui peuvent se retrouver comme ça pour passer du temps ensemble à produire des découvertes ludiques ouvrant l'œil au musée. Beaucoup de choses visitées par un invité un peu mystère, donc ça c'est avec la GIT, l'association des guides interprètes du Tarn, du Cluedo, bref, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais si tu devais nous pointer sur quelques moments ou temps forts là à venir dans les prochaines semaines, il y a les vacances scolaires là bientôt en février par exemple, tu nous orienterais vers quoi ?
Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, notre programmation culturelle, elle couvre toute l'année, mais il y a quand même une période un peu plus soutenue que sont les vacances scolaires, puisqu'on reçoit beaucoup de familles. Et justement, vous en avez parlé un petit peu avec Fanny Girard, notre directrice, tout à l'heure. Le fait que l'on soit signataire de la charte Montmartre, en fait, vient illustrer, mettre en valeur des actions qu'on mène auprès du public famille depuis de nombreuses années. Donc, il est vrai que sur les vacances scolaires, on propose beaucoup d'activités, notamment pour les familles, donc des visites ateliers avec toujours ce lien entre les collections et une pratique artistique. Là, pendant les vacances, on en propose notamment autour de l'accrochage Miro s'invite au musée Toulouse-Lautrec. Mais en fait, on propose toutes sortes d'activités suivant l'âge des enfants. On a un format de balade musicale qui est accessible pour les tout-petits, donc de 2 à 6 ans, où on propose une découverte sonore d'une sélection d'œuvres du musée avec de la manipulation des instruments par les enfants. On va avoir des visites comptées, où là, c'est une de nos médiatrices qui est comédienne, qui, en fait, accompagne les enfants à travers la découverte de Toulouse-Lautrec. Elle est munie d'un grand livre, un peu à la façon d'un album de famille avec des photos. Et donc, elle va compter un peu de la vie de Toulouse-Lautrec depuis l'enfance jusqu'à son arrivée à Paris. Donc là, on est plutôt pour des publics, je crois que c'est 4-6 ans. On a vraiment en fait des propositions pour tous les âges. Après, on propose aussi pour le public adulte deux formats de visite qui sont assez plébiscités. Le premier, on l'a intitulé « Les coulisses du palais ». Donc en fait, le nom indique bien que finalement, on va proposer une découverte un peu exceptionnelle du lieu, puisque nous avons la chance au musée d'avoir une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame, qui est un lieu un peu secret, parce que nous ne pouvons pas l'ouvrir au public en continu, malheureusement. Donc on propose la découverte de cette chapelle accompagnée d'une guide conférencière, à travers cette visite d'une heure qui présente des points d'architecture importants et marquants du palais. Donc on aborde les pavements médiévaux de la salle palatiale, la magnifique galerie d'Amboise qui est une galerie renaissance avec un plafond complètement orné de peinture, et on termine par la chapelle, donc avec cet effet un peu oulala, où je suis, c'est merveilleux, enfin, et un peu hors du temps, puisque c'est un espace qui est habituellement fermé au public. Et vous en avez parlé également, les visites de l'invité mystère. C'est un format qu'on a développé justement en partenariat avec l'Office de tourisme d'Albi et l'AGIT, donc l'Association des guides interprètes du Tarn. Et on propose un peu une découverte un peu décalée, puisque c'est un personnage tout droit sorti de l'univers de Toulouse-Lautrec, donc, qui est interprété par un guide conférencier qui est en costume, qui propose sa vision de l'œuvre de Lautrec à travers la vie du personnage qu'il interprète. Donc là, on est aussi sur une découverte un peu différente de ce qu'on peut faire d'habitude, mais qui va nous permettre de toucher aussi d'autres publics. Voilà, chaque public, on essaie de développer quelque chose qui soit le plus adapté.
musée-toulouse-lautrec.com pour aller un peu plus loin, voir toutes les informations et les détails de tout cet agenda d'actions, d'ateliers, d'activités au-delà de la visite simple de ce musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Et si on devait terminer par un petit mot pour convaincre celles et ceux qui hésitent encore à passer la porte de ce musée, quelle serait votre phrase pour les convaincre?
Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de franchir les portes de notre palais-forteresse, alors qui à la base a été conçu comme un palais défensif, donc qui peut faire un peu peur. Mais il y en a vraiment pour tout le monde. On n'est pas forcément des experts de l'histoire de l'art, et il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, on est tous capables de s'émerveiller face à un tableau, de ressentir des choses. Et ça, on essaie justement de l'accompagner et de le favoriser. En s'adaptant toujours au public, sans aucun jugement, et avec à cœur d'accueillir du mieux possible tous les visiteurs qui passent la porte.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Laura Garbatch. Merci beaucoup, responsable du service des publics ici au musée Toulouse-Lautrec. Merci à Madame Fanny Girard, la directrice et conservatrice, qui est avec nous en première partie, à Julien Nicolas, qui est chargé de mission du lieu. On salue Karine Roumiguer, chargée du pôle collection du musée Toulouse-Lautrec et commissaire de l'exposition Miro, qui est ici à Albi jusqu'au 8 mars. Le musée Toulouse-Lautrec, c'est bien plus qu'un lieu d'exposition, comme vous l'avez entendu, amis auditeurs. C'est un voyage dans l'histoire, dans l'architecture et dans l'œuvre d'un artiste profondément moderne installé dans un site exceptionnel au cœur d'Albi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour l'accueil ici au musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Exploration continue sa balade le mois prochain, toujours à la découverte des musées du Tarn. À bientôt, c'était Jacques.